Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Ne vous fatiguez jamais d'être miséricordieux, ne condamnez pas mais pardonnez. Le message tout personnel du pape aux 13 nouveaux prêtres qu'il a ordonné ce dimanche dans la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la journée mondiale des vocations. Priez pour ces jeunes tentés par la prêtrise, priez pour vos prêtres. Lors du Regina Coeli, le pape a demandé aux fidèles de ne jamais hésiter à déranger leur pasteur pour les aider à devenir meilleurs. Le patriarche latin de Jérusalem parle d'un climat empoisonné en Israël. À 2 semaines de la venue du pape, les actes de vandalisme anti-chrétien et anti-arabe se multiplient sans que la police procède à l'arrestation des auteurs de ces tags et menaces. Et puis enfin, notre invité ce dimanche est un peintre amoureux du baroque qu'il revisite. Philippe Casanova a été engagé, entre autres choses, par la Fabrique Saint-Pierre à l'occasion des 500 ans de la basilique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine en langue française de Radio Vatican. À l'occasion de la 51e journée mondiale des vocations, je vous le disais en titre, le pape François a présidé ce dimanche matin une messe d'ordination sacerdotale en la basilique Saint-Pierre. Venant d'Amérique latine, de l'Équateur, ou du Chili ou du Brésil, mais aussi d'Asie, du Pakistan, de Corée ou encore du Vietnam et puis aussi d'Italie, 13 diacres ont été ordonnés prêtres par François qui les a invités à édifier la maison de Dieu, avec la parole bien sûr, mais aussi par leurs actes, à suivre ainsi l'exemple de Jésus-Christ qui n'est pas venu pour condamner, mais pour pardonner. Cyprien Viette.
Eduardo Andrés Contreras Valladares.
Eccomi.
L'un après l'autre, les ordinants ont répondu à l'appel de leur nom. Les diacres, formés pour la plupart à Rome, se sont montrés dignes d'être ordonnés prêtres. Le vicaire général du diocèse en a témoigné devant le pape, François, qui, avant de procéder au rite d'ordination, a tenu à adresser à ces jeunes de 28 à 42 ans un message tout personnel dans son homélie. Ne vous fatiguez jamais d'être miséricordieux, leur a lancé le pape. S'arrêtant longuement sur le sacrement de la pénitence, François a dit ressentir une grande douleur à voir tant de personnes ne plus aller se confesser parce qu'ils se sont fait crier dessus, parce qu'ils ont senti qu'on leur claquait les portes de l'église au nez. Ayez tant de miséricorde. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour pardonner. D'ailleurs, n'ayez aucun scrupule si vous pardonnez trop. Jésus a donné le mauvais exemple, s'est amusé le pape.
Et vous? Non siete padroni della dottrina, è la dottrina del Signore.
La doctrine n'est pas la vôtre, c'est celle de Dieu. Vivez ce que vous enseignez. Et attention à l'orgueil, vous êtes là pour servir avec joie et non pour être servi. Concentrés, les diacres ont ensuite affirmé à haute voix leur ferme intention de servir et guider le peuple de Dieu, d'annoncer l'évangile ou de célébrer avec dévotion et fidélité les mystères du Christ. Ils ont juré respect filial et obéissance au pape avant de s'allonger en croix, visage au sol, en signe de soumission et d'humilité. Intercession de prière, à la fin de la litanie des saints, les ordinants ont reçu l'imposition des mains du pape, la transmission de l'Esprit-Saint, l'entrée dans le sacerdoce. Ce furent ensuite les premiers sourires. Dans un moment de communion joyeuse, les nouveaux prêtres ont revêtu les ornements sacerdotaux et reçu l'accolade de ceux qui les y aidaient. Vient enfin un geste de paix du pape François, une tape sur l'épaule en guise d'encouragement.
Et à la fin de la messe, le pape a directement rejoint le palais apostolique, la fenêtre depuis laquelle il a récité la prière du Regina Coeli. En ce 4e dimanche de Pâques, François a exhorté la foule de fidèles à aider leurs prêtres à être de bons pasteurs, à les déranger. Citant l'évêque français Saint Césaire d'Arles, un père de l'église des 5e et 6e siècles qui assimilait les prêtres à des vaches capables de nourrir le peuple chrétien, le pape a demandé aux fidèles de toujours venir frapper à la porte de leurs prêtres, de les importuner pour qu'ils leur donne le lait de la doctrine et de la grâce. Et dans son commentaire de l'évangile selon saint Jean, François s'est appuyé sur l'image du bon pasteur. En contemplant cette page de l'évangile, nous pouvons, a-t-il dit, comprendre le type de rapport que Jésus avait avec ses disciples, un rapport basé sur la tendresse, sur l'amour, la connaissance réciproque et sur la promesse d'un don incommensurable, le modèle des relations entre les chrétiens et le modèle des relations humaines, a déclaré François. Les prêtres doivent se faire proches de chacun de manière simple et miséricordieuse. Chaque prêtre, quelles que soient les circonstances, doit marcher derrière le peuple pour aider ceux qui sont restés en retrait. Et le pape a demandé à la foule de prier pour les pasteurs de l'Église et pour les jeunes en discernement sur la vocation sacerdotale. Peut-être il y en a un sur cette place qui se sent cette voix du Seigneur qui l'appelle au sacerdoce. Prions pour lui et pour tous les jeunes qui sont comme lui. Prière enfin pour les mères dont c'est la fête ce dimanche en Italie. Unissons-nous tous dans la prière pour que soient immédiatement relâchés les lycéens enlevés au Nigeria. Dans un tweet publié samedi soir à 20h passée, le pape François a réclamé la libération par Boko Haram des quelques 253 écolières du Chibok enlevées mi-avril dans l'état de Borno au nord du pays. Il a également utilisé le hashtag Bring Back Our Girls, mentionné par d'autres personnalités comme Michelle Obama ou Malala. Jeudi, dans un communiqué, le Saint-Siège avait déjà condamné fermement cet enlèvement, la négation de tout respect pour la vie et la dignité des personnes, même les plus innocentes, vulnérables et sans défense, requiert la condamnation la plus ferme et suscite une compassion pleine de tristesse pour les victimes, de l'horreur pour les souffrances physiques et spirituelles. Les humiliations incroyables qui leur sont infligées, avait alors affirmé le père Federico Lombardi, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Quelques jours avant la venue du pape en Terre Sainte, avant le deuxième déplacement apostolique de François en dehors de l'Italie, cette déclaration sans réserve et sans pincette du patriarche latin de Jérusalem. Lors d'une conférence tenue ce dimanche à Haïfa, Mgr Fouettoile a estimé que les récents actes de vandalisme antichrétien incontrôlés empoisonne l'atmosphère de coexistence et de coopération. Jésus est une ordure, mort aux Arabes, le prix à payer. Des églises, des mosquées ont été taguées par ces messages, par des juifs ultra ces dernières semaines. Des actes qui font l'objet de condamnations, mais qui ne font pas l'objet d'arrestations, ou presque, a regretté le patriarche latin ce dimanche. En effet, si la police israélienne a procédé à des interpellations dans les milieux religieux nationalistes juifs, cette vague d'agressions n'a donné lieu pour le moment à aucune poursuite ni aucune inculpation. Et pour Mgr Fouettoile, le gouvernement israélien doit s'inquiéter parce que cela nuit à l'image du pays à l'étranger. C'est aussi une tache sur la démocratie dont se réclame Israël. Et quelques jours avant la venue du pape, le cardinal Jean-Louis Torrent, le cardinal français sera en Jordanie, à Amman, du 12 au 14 mai prochain, accompagné du secrétaire de son dicastère, le père Guixo, et de Mgr Akachesh, lui-même jordanien et en charge du bureau pour l'islam au sein du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Ils assisteront tous les trois à deux rencontres. La première, un séminaire sur le thème de religion et violence à la Petra University d'Amman. Le cardinal Torrent devrait intervenir à cette rencontre organisée à l'occasion justement du prochain voyage apostolique de François en Terre Sainte. Et puis la délégation vaticane prendra part ensuite les 13 et 14 mai à la troisième édition du colloque que le Conseil pontifical co-organise avec le Royal Institute for Interfaith Studies à Amman. Cette rencontre aura pour thème l'éducation face aux défis actuels. Elle se conclura par une déclaration commune. Et on quitte la politique pour parler culture. Dans la seconde partie de ce magazine, nous ne parlerons pas littérature, bien que le Saint-Siège soit jusqu'à demain l'invité du Salon du Livre de Turin, mais de peinture. L'invité de ce dimanche est un peintre de talent, passionné par les formes, les perspectives, les rythmes clairs-obscurs et très influencé par l'univers baroque qu'il revisite. Philippe Casanova vit à Rome depuis une quinzaine d'années. Il a peint dans les principales églises, les principaux palais. En 2006, il a été invité par la fabrique de la basilique Saint-Pierre, créant pour elle, à l'occasion des 500 ans de sa construction, un cycle de 32 peintures inspirées par les splendeurs du Vatican. Sœur Catherine Aubin a demandé à son invité comment il en était venu à être fasciné par le baroque, alors qu'il avait commencé par être dessinateur dans la bande dessinée.
Philippe Casanova, vous êtes un peintre du baroque, mais vous n'avez pas été que ça. Vous avez, au long de votre parcours, à un moment donné, visité l'Europe centrale et ses abbayes. Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas? Qu'est-ce que ces abbayes vous ont transmis?
Eh bien, ça a été un émerveillement et une intuition. J'ai eu l'impression d'entrevoir, disons, le projet de l'Église au travers de toutes ces beautés artistiques. Je me suis pris d'une sympathie que je n'avais pas pour ce projet. Et je me suis dit, si l'Église a été capable de susciter autant de beauté, alors, au fond, elle m'intéresse.
Quand vous dites beauté, c'est l'architecture, ce sont les icônes. Est-ce que vous pourriez nous dire?
Disons, pour le dire à la romaine, le bel composto, c'est-à-dire l'interaction de plusieurs disciplines, de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, de la décoration, mais aussi de la musique. C'est la symphonie de tous les arts.
Et pourtant, vous arrivez de la bande dessinée. Jusqu'à l'âge de 18 ans, vous avez aussi fait de la bande dessinée.
Effectivement, et puis petit à petit, je me suis senti à l'étroit, disons, ça ne me suffisait plus. Mais en même temps, maintenant avec le recul, je me dis que tout compte fait, la bande dessinée était une bonne entrée en matière pour s'approcher, disons, de l'univers baroque. Parce qu'on retrouve, disons, une fantaisie, un goût du mouvement, quand même un certain nombre de caractéristiques communes qui peuvent expliquer que je sois passé presque sans m'en apercevoir de l'un à l'autre.
Alors l'Europe, les abbayes d'Europe centrale, le baroque, dites-nous un peu quel lien vous avez fait entre les deux.
Entre l'Europe centrale et...
Et le baroque à Rome.
Ah oui, eh bien je ne l'ai pas compris tout de suite, ça a été très progressif, mais en fait tout ça est venu de Rome. Donc j'ai commencé par, disons, en aval, en voyant certains effets, le déploiement, l'univers baroque décliné sous d'autres latitudes. Et puis petit à petit, je suis remonté à la source. Et la source, c'est Rome. Et en fait, c'est l'Église. Bon, il m'a fallu quand même quelques années pour que ça devienne une évidence.
Alors vous dites aussi, quand on lit votre site, que vous avez eu un vrai coup de foudre pour Rome. Qu'est-ce qui vous a atteint à ce point-là?
C'est la beauté extraordinaire de la ville, bien entendu. Ça a été un foudroiement et une sensation d'énergie et d'énergie joyeuse. Là encore, je ne savais pas très bien à quoi ça tenait. Même le monument de Victor Emmanuel, j'étais capable de trouver ça beau. Enfin, j'ai été tout de suite séduit, enthousiasmé par cette ville, alors que je n'étais pas particulièrement curieux de la découvrir, je dois dire, quand je suis venu la première fois. J'ai été extrêmement surpris, agréablement surpris, et j'ai commencé à me dire finalement, venir vivre et peindre à Rome, voilà mon chemin.
Alors, ce chemin, il commence par quelle peinture à Rome? Vous avez commencé par peindre quoi?
Alors, j'ai commencé presque d'emblée, je suis allé devant la tombe de Saint-Philippe Neri et j'ai commencé à dessiner dans la Chiesa Nuova parce que j'avais entendu parler de Saint-Philippe Neri, j'avais lu quelques textes sur lui, je m'étais dit tiens voilà un guide intéressant et j'ai commencé à dessiner et à peindre dans cette Chiesa Nuova et c'est là que j'ai commencé aussi à rencontrer les premières personnes qui étaient intéressées par mon travail. Bientôt est née en fait ma première commande à Rome qui était pour les oratoriens. J'ai fait tout un cycle de peinture sur les pas de Saint-Philippe Filippo, au centre de Rome, toutes les églises et aussi les palais qu'il avait fréquentés pendant ses années romaines. Et ça a vraiment été mon point de départ à Rome et c'est le point de départ auquel je reviens toujours.
Alors ce qui est très étonnant en vous écoutant, Philippe Casanova, ce sont les intérieurs qui vous intéressent. L'intérieur des églises et des églises baroques. Pourquoi les intérieurs des églises baroques?
À vrai dire, il y a quand même une part de hasard, certainement. J'ai été fasciné par ce genre de la vue d'intérieur, d'abord parce qu'il est quand même assez original, pas si connu que ça, a été très peu pratiqué à Rome, alors que, disons, peindre des paysages de Rome, c'est quand même pas forcément très original, mais peindre les intérieurs des palais et des églises, c'est quelque chose de beaucoup plus singulier. Pour moi, ça allait de pair avec une recherche spirituelle, disons, pour employer un grand mot, mais enfin, quand même, avec une forme d'introspection, disons, pour essayer de projeter mon âme et mes aspirations dans ces intérieurs, et bien entendu, d'abord dans les églises, parce que le baroque, c'est d'abord les églises. Et puis c'est ensuite également l'architecture profane. Mais ça part du tabernacle et ça part des églises. Donc c'était logique de commencer par là et d'y revenir toujours.
On dit de votre peinture que c'est un parcours, justement, un parcours de l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Expliquez-nous.
Oui, c'est un chemin, c'est une sorte de pèlerinage. Par exemple, c'est ce que j'ai essayé de faire il y a quelques années, vers 2008, quand j'avais fait tout un parcours qui allait du pont Saint-Ange à la chaire de Pierre, à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Et c'était ma manière de visiter et de faire visiter le plus important sanctuaire de la chrétienté et aussi de faire pèlerinage tout en contemplant et en reflétant, disons, tout le génie architectural et décoratif que l'on rencontre au cours d'un tel pèlerinage. Mais en tout cas, c'est toujours en mouvement. Oui, c'est une déambulation parce que la vie a un commencement, a un présent, et puis elle va aussi se terminer bientôt. Alors nous sommes en mouvement.
Alors il y a le mouvement qui est très important chez vous, et dans vos peintures aussi, on a l'impression que vous nous incluez dedans. Et il y a cet aspect aussi très très important pour chacune de vos œuvres, c'est la lumière.
Oui. D'abord, le spectateur se sent comme aspiré par le tableau. Ça, je dirais, c'est la recherche de l'émotion, mais de l'émotion qui, en même temps, n'est pas une fin en elle-même, mais c'est l'émotion pour essayer de transmettre une idée. Je fais allusion à un proverbe du XVIIe siècle à Rome. On disait « movere per docere », émouvoir pour enseigner. Disons, le baroque, c'était ça. Il s'agissait d'en mettre plein la vue du spectateur, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, lui enseigner quelques vérités fondamentales de l'Évangile. Et d'autre part, la lumière, alors la lumière dans le baroque, effectivement, est absolument protagoniste, parce que c'est elle qui met le baroque en mouvement et qui rend la matière vivante. Quand il n'y a pas de lumière, c'est une espèce de cimetière un peu gris, et quand la lumière arrive, eh bien, tout s'illumine et s'enflamme. C'est le feu de l'Esprit Saint.
Alors justement, j'allais vous en parler de cet esprit. Vous avez dit c'est le mouvement qui caractérise ma peinture. On dit aussi dans l'Évangile que Dieu est mouvement, la lumière de l'Esprit Saint. Est-ce que votre peinture est mystique ?
En général, ce n'est pas de l'art sacré, c'est plutôt un art qui se situe à la lisière de l'art sacré, c'est plutôt une réflexion sur l'art sacré des autres, disons, ou un reflet de l'art sacré des autres. Mais enfin, dans certains cas bien précis, ça devient de l'art sacré. Quand j'ai peint pour Notre-Dame du Lot, là, j'étais déjà plus au cœur, disons, de l'art sacré, parce que c'était un tableau monumental pour un sanctuaire.
Pouvez-vous nous dire un peu ce que vous avez représenté pour Notre-Dame du Lot ?
Pour être honnête, c'est ce lieu qui est venu à moi. Notre-Dame du Lot est venu me chercher, et ça a été une retrouvaille. Et j'ai peint pour Notre-Dame du Lot dans l'esprit de la fête baroque romaine, parce qu'il s'agissait de célébrer la reconnaissance officielle définitive des apparitions de la Madone à Benoît Trancurel. Cette reconnaissance a eu lieu maintenant, ça va faire 6 ans, mais on allait en fêter les 5 ans, puisque ça se passait le 1er mai de l'année dernière. Et il s'agissait de représenter la cérémonie au cours de laquelle Monseigneur Di Falco avait lu le décret de reconnaissance des apparitions, et de faire figurer sur ce tableau les cardinaux, évêques, les nombreux prêtres et les milliers de pèlerins qui étaient là et se réjouissaient et priaient ensemble.
Philippe Casanova, quand vous entrez dans une église à Rome, dans une église baroque, quand je vous regarde, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous voyez ? Parce que dans vos tableaux, vous représentez le baroque des églises, mais vous représentez aussi parfois ce que le Bernin ou autre n'ont pas eu le temps ou n'ont pas pu représenter à travers des détails.
J'ai le recul du temps. Il s'agit d'une revisitation, c'est un regard contemporain sur le baroque, avec la conviction que toute cette puissance et cette beauté enthousiasmante du baroque est encore susceptible de toucher les cœurs et les intelligences d'aujourd'hui et de bouleverser la vie des hommes d'aujourd'hui comme elle a bouleversé ma propre vie.
Merci.
C'était le peintre Philippe Casanova, l'invité de ce dimanche, invité de Sœur Catherine Aubin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine en langue française de Radio Vatican.